Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. À partir de plusieurs dates clés de sa vie, cet invité va vous raconter son parcours, ses passions, donc son histoire. Mais les clés d'une vie, vous le savez, ce sont aussi d'autres histoires liées à votre vie. Allez, comme tous les jours, grâce à ces clés, j'ouvre maintenant la porte à nos souvenirs. Elle doit à un échec le premier succès d'une longue série. Elle vient du Sud, mais des années de métier lui ont permis d'apprendre à ne pas perdre le Nord. Cette travailleuse acharnée qui n'a jamais bâillé aux corneilles défend aujourd'hui ses racines. Bonjour Chimène Badi.
Bonjour.
Alors c'est vrai que vous avez un parcours incroyable qu'on va évoquer. Là, vous participez à un album méditerranéen qui va devenir une tournée à partir de 2018. On va en reparler parce que c'est une très belle aventure, une aventure collective. Mais avant, on va revenir à votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 29 août 2002. Ça vous dit forcément quelque chose?
Eh ben oui, 29 août 2002... première sortie de mon premier single,
non,
c'est pas ça?
Première de Popstar.
Popstar, voilà.
Popstar, oui.
Voilà,
première de Popstar.
Je savais plus, c'était le 29 août.
Si, c'était la deuxième saison.
C'est ça.
Et vous vous souvenez de ce soir-là, de cette première émission de télévision, Chimène Badi?
Ah oui, je me souviens, bien sûr, je me souviens. Vous parlez de la diffusion ou vous parlez du moment où je l'ai vécu?
Les deux.
Alors oui, je me rappelle de ce moment-là, ça c'est sûr. Parce que ça a été un moment assez à part dans ma vie, assez unique. Et puis j'étais quelqu'un de très introverti, donc quelque part c'était très compliqué pour moi de faire face aux caméras, de faire face au monde qui était là, aux autres candidats. Et il fallait à tout prix que j'arrive à montrer ce dont j'étais capable. C'était très important pour moi, je prenais ça très au sérieux. Et donc ça a été une formidable aventure parce que ça m'a permis aussi de m'ouvrir aux autres. Mais c'est surtout que ça a été un magnifique tremplin pour moi parce que c'est grâce à Popstar que j'ai pu découvrir mon producteur de l'époque qui s'appelait Valérie Zetoun et avec qui j'ai signé mon premier contrat. Et grâce à Popstar, j'ai surtout rencontré mon public et ça c'est merveilleux.
Oui, mais ce soir-là justement, il y a un moment d'émotion très fort, d'autant plus que c'était pratiquement votre dernière chance. Vous aviez tout essayé pour chanter et ça ne marchait jamais.
J'avais tout essayé. J'avais envoyé des maquettes à des maisons de disques. J'avais essayé de participer à la Star Academy à l'époque. Il y avait Graines de Star aussi. Et puis, j'avais jamais de réponse. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce de Popstar sur M6, je me suis dit, je vais essayer et on verra bien.
Et puis, alors, beaucoup sont persuadés encore aujourd'hui que vous avez gagné Popstar. Alors
oui,
que
c'est vrai.
Ouais, c'est fou. Hein.
Mais je pense qu'ils n'ont pas réellement tort. C'est-à-dire que j'ai gagné un public et ça, c'est merveilleux. Et oui, c'est ça. J'ai eu, grâce à Popstar, pour moi, ça a été la rencontre avec le public. Donc, j'ai gagné beaucoup, c'est vrai.
Il faut savoir que Popstar, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vécu, a commencé un mois avant Star Academy.
Oui.
Que le principe, c'est de former un groupe.
Tout à fait.
Et que vous étiez suffisamment indépendante pour ne pas former un groupe, Chimène Badi.
C'est ça. Mais si j'avais été dans le groupe, j'aurais fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, et parce que je suis comme ça. Mais honnêtement, je suis ravie d'avoir pu évoluer en solo, c'est sûr.
Alors, vous êtes née à Melun et vous avez grandi à Villeneuve-sur-Lot.
C'est ça.
En pleine campagne, un petit village tranquille.
Qui s'appelle Soubirous, oui, c'est
voilà.
Vrai, tout à fait.
Et Villeneuve-sur-Lot, on a un peu oublié, mais c'est la patrie d'un grand écrivain qui s'appelait Paul Guth. Paul Guth qui a écrit Le Naïf aux 40 enfants, c'était un professeur, et il était lui-même faussement naïf, c'est-à-dire que quand il vous écrivait des dédicaces, ça durait mais deux pages,
ouais.
De compliments dans tous les sens.
D'accord.
Et une anecdote incroyable, un jour, il était un peu faillot, il demande à Robert Sabatier, écrivain, de lui donner des exemplaires en plus de son livre, et Robert Sabatier lui dit « demandez-les à genoux ». Et Paul Guth se met à genoux. Il fait « Non, demandez-les à Monsieur Genoux, le responsable du service. » On ne parle plus beaucoup de Paul Guth, mais Villeneuve-sur-Lot, c'est un petit coin charmant qui est cher à votre cœur.
Oui, pour des tas de raisons. J'ai essayé d'aller ailleurs. Je suis venue m'installer 6 ans ici, sur Paris. C'était particulier. Et puis, je n'avais pas mes repères, je n'avais pas mes amis, je n'avais pas ma famille. C'était dur. Et puis, c'était une grosse période. Je travaillais énormément. Donc, c'était un peu dur. Et puis, finalement, j'ai décidé d'acheter du côté de Perpignan, où j'ai vécu quelques années aussi. Mais la vie a fait que je suis retournée à Villeneuve-sur-Lot. Et voilà, c'est une petite ville dans laquelle j'ai grandi, où j'ai tous mes souvenirs, où j'ai tous mes repères, mes amis, ma famille. Et je crois que c'est le seul moyen pour moi de pouvoir gérer mon métier et ma carrière, c'est en étant aussi là-bas et pouvoir me ressourcer dès que les lumières s'arrêtent.
Et votre métier, au départ, ça aurait dû être... Vous passiez un BEP pour devenir dans l'agroalimentaire.
Oui, je voulais être inspecteur d'hygiène.
Dans la restauration.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Qu'est-ce que
oui,
c'est?
Oui, non, mais en fait, vous savez, mon père, il savait que j'aimais chanter, il savait que c'était ma passion, et c'est vrai qu'il a mis du temps avant de il a fallu qu'il m'entende chanter un jour pour y croire et me soutenir. Mais jusqu'alors, il ne voulait pas.
D'ailleurs, il était prêt à vendre la maison pour vous soutenir.
Oui, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Ouais. Et donc, du coup, lui, ce qu'il voulait, c'était que je fasse des études. Il voulait absolument. Il me disait, la chanson, c'est bien beau, mais moi, je veux que tu fasses des études parce qu'on ne sait pas. Et donc, un peu par... non, mais c'est aussi... C'est en rapport avec moi, l'hygiène. J'ai un côté un peu... comment on peut dire ça ? Un côté un peu maniaque. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai que les restaurants, je me posais toujours des tas de questions quand j'allais manger au resto. Est-ce que c'était propre ? Est-ce que les cuisines ? Est-ce que tout était bien respecté ? Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ce métier ? Voilà.
Alors, il faut savoir que les inspecteurs d'hygiène, l'origine, ça remonte à 1840, je ne sais pas si vous le savez.
Pas du tout.
C'était les délégués mineurs qui, justement, pour surveiller si tout se passait bien dans une mine, ont créé ce métier.
D'accord.
Que vous avez failli exercer.
D'accord.
Mais à l'école, bon, ça se passait moyennement, vous bâcliez un peu vos devoirs.
J'étais une grande rêveuse, je le suis toujours d'ailleurs, hein. Mais en classe, j'étais quelqu'un de sympa, mais par contre, je rêvais. J'étais pas là, quoi. Moi, je m'imaginais sur scène, je m'imaginais avec mon public. C'était de longues heures comme ça en classe. Mais si je faisais un petit effort, je m'en sortais très bien, par contre, parce que j'avais des facilités et je pense que je le savais aussi. Donc, du coup, je me forçais pas trop, quoi.
Et puis, vous écriviez, lorsqu'on vous demandait profession future, vous mettiez toujours chanteuse.
Oui.
À la surprise de vos professeurs.
Oui, tout à fait. Alors, mais celle qui m'a particulièrement marquée, parce qu'après, plus tard, au collège, les professeurs, ils nous regardent, sont étonnés, mais ils nous prennent pas vraiment au sérieux. Mais la réaction qui m'avait marquée, c'était celle de mon instituteur quand j'étais toute petite, parce qu'il m'avait dit que chanteuse n'était pas un métier. Et donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à maman, et je lui ai dit, maman, mais chanteuse, c'est vrai que c'est pas un métier, parce que c'est ce que je veux faire. Et alors, ma mère, elle a souri, elle m'a dit, c'est un métier, mais c'est compliqué. Voilà.
Ouais.
Et c'est vrai que ça m'a marquée, parce que si je l'avais écoutée, peut-être que j'aurais jamais réalisé mon rêve, que je me serais pas donné les moyens. Heureusement que ma maman m'a laissé penser que c'était quelque chose que je pouvais faire un jour.
Et vous l'avez fait, et le premier disque, c'était cette chanson. Premier album, premier succès, premier triomphe avec une voix incroyable, Chimène Badi. Un album enregistré à Montréal.
Oui,
pourquoi?
C'est vrai. Bah, tout simplement parce qu'en fait, c'est Rick Allison qui s'est occupé de cet album. Et c'est vrai qu'à l'époque, Valérie Zetoun l'a appelé. Il lui a fait écouter ma voix. Il lui a envoyé aussi des sessions de Popstar en vidéo pour qu'il voie un peu qui j'étais. Et donc, il a eu tout de suite envie de travailler avec moi et il m'avait déjà préparé la plupart des titres et il était très emballé. Et donc, on s'était vu ici sur Paris. J'étais d'ailleurs très impressionnée parce que c'était la première fois que je le rencontrais. Et puis, je savais qu'il avait travaillé avec Lara Fabian, qui avait fait de très belles chansons. Et donc, c'était un peu tout... J'avais plein d'émotions toutes mélangées, la peur, la joie, l'impatience. Et donc, il me fait écouter un premier titre qui était Entre nous. J'ai eu un coup de cœur, je la trouvais si belle. Je la trouve belle encore, mais cette époque-là, elle était merveilleuse, quoi. Et puis, j'ai écouté la chanson, j'ai eu un coup de cœur. Et il m'a dit, bah, écoute, j'en ai plein d'autres et on va faire l'album ensemble. Et puis, c'est parti comme ça.
Et ça vous a permis de voyager pour la première fois ?
Oui, c'était mon premier... c'était mon premier voyage, oui.
Vous n'imaginiez pas, dans vos rêves les plus fous, voyager, aller à l'autre bout du monde pour enregistrer un album ?
Jamais, jamais. C'est pas du tout quelque chose qu'on imagine. J'étais pleine de surprises et en même temps très effrayée parce que je pensais tout de suite... Et c'est un peu ce qui me caractérise en général tout au long de mes années de carrière. Il y a la joie tout le temps, mais qui est tout le temps un peu bouffée par l'envie de donner le maximum et d'assurer, quoi. Donc du coup, il y avait aussi cette pression-là. Est-ce que je vais être capable de faire ce disque ? Et puis c'est vrai que Rick Allison a une manière de travailler qu'il faut être solide. Il faut tenir derrière le micro.
Et vos parents ont été fiers de vous, Chimène Badi ?
Mes parents, ils ont toujours été fiers de moi, avant même que je sois artiste, avant même que je chante, parce que je suis leur fille, leur grande fille. Mais mes parents sont fiers de ce que je suis. Peut-être que papa était peut-être un peu plus fier encore. par rapport à la chanson. Ma mère, je crois que si j'étais restée auprès d'elle et que j'avais eu une vie beaucoup plus simple et facile, ça l'aurait arrangée aussi. Il n'y aurait pas eu de soucis.
Oui, mais finalement, ils sont heureux de ce qui vous arrive.
Très heureux de ce qui m'arrive, mais je dirais que peut-être papa est un petit peu plus fier que maman, qui, ça ne change rien. Pour elle, je suis toujours la même.
Et vous n'avez pas l'intention de changer ?
Pas du tout. Je crois qu'au bout de tant d'années, le cap est passé.
Vous vous rendez compte du nombre d'années de carrière que vous avez déjà ?
Oui, ça fait 15 ans.
Ah, vous avez commencé à 18 ans.
Oui, ça va vite. Hein.
Ça va très vite. D'ailleurs, oui. Il s'est passé encore d'autres choses. On va en reparler dans quelques instants avec une autre date, Chimène Badi. Une date importante pour vous aussi, le 21 juin 2003. À tout de suite sur Sud Radio avec Chimène Badi.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Chimène Badi. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous aiment. Une autre date, 21 juin 2003. C'est un souvenir important aussi pour vous.
Ben, si vous dites le 21 juin, ça ne peut être que la fête de la musique.
Oui.
Non, parce que je ne suis pas douée. Je me souviens de tout ce qui s'est passé au long de ma carrière. Mais les dates, par contre, je suis un peu plus... Ben, c'était ma première fête de la musique.
Aux Champs-Élysées.
Tout à fait.
Racontez-moi.
C'était aux Champs-Élysées ? C'était pas au Champ de Mars ? C'était au Champ de Mars,
ouais,
je crois.
Bah, les archives disent les Champs-Élysées.
Non,
mais c'est
c'était le Champ de Mars, ouais. Parce que je m'en souviendrai si c'était les Champs. C'était au Champ de Mars, il y avait un monde fou, je crois qu'il y avait 100 000 personnes.
Ouais.
Et c'était une émission télévisée. C'était impressionnant. J'avais peur. Ma maman, elle avait été déçue de ma prestation, je me souviens derrière. Elle m'avait dit, oui. Elle m'avait dit, je suis déçue, t'as pas bien chanté.
Oh, en tout cas, ça a marché, le
mais
public.
Ouais, non, bien sûr. Mais moi, ce que j'aime justement chez ma mère, c'est qu'elle me dit toujours ce qu'elle pense. Donc, quand elle me dit que c'est bien, ben, je la crois. Et quand elle me dit que c'est pas bien, ben, je la crois aussi. Elle avait été déçue. Moi, j'étais déçue qu'elle soit déçue, mais j'en avais pris plein le visage parce que c'était impressionnant. Il y avait un monde fou. Il y avait ces caméras partout. Il y avait ce deuxième single qui était très important puisque c'était « Je vais te chercher » que j'avais chanté et pas « Entre nous », donc mon deuxième single. Et voilà. Et tout ça, c'était extraordinaire, mais en même temps, c'était très flippant. Et je l'ai vécu à fond parce que quand je chante, par contre, je suis toujours dans mon moment, je passe pas à côté.
On a le trac avant et la tension pour donner le maximum pendant.
C'est ça, tout à fait. C'est terrible. Hein.
En
termes d'ascenseur émotionnel, c'est un peu violent.
Mais cette fête de la musique, on a l'impression que c'est Jacques Lang qui l'a créée. En fait, c'est un musicien américain, Joel Cohen, qui en 1976 a proposé à France Musique deux soirées qui seraient les Saturnales de la musique et qui permettraient aux solstices d'hiver et d'été de créer de la chanson. Et Jacques Lang s'est inspiré de cette idée pour créer la fête de la musique en 82, qui a été officielle en 83, donc 20 ans avant votre prestation au Champ de Mars. C'était l'époque d'un tourbillon total.
Ah oui, il y a eu 6 années là, impressionnantes. C'est passé très vite et j'étais partout tout le temps et j'avais même pas le temps de réaliser ce qui était en train de m'arriver en fait.
Et le jour où vous avez chanté avec Johnny pour ses 60 ans, je te promets,
oui.
Sur scène, ça aussi c'est un grand moment.
Ah, là c'est chaud même, parce que c'est-à-dire que Johnny Hallyday c'est quelqu'un d'extraordinaire, moi je l'écoute, je l'entendais depuis toute petite parce que mon père est quelqu'un qui aime beaucoup Johnny, donc je connaissais beaucoup tout ce qu'il avait pu faire, mais l'idée de chanter avec lui ça m'impressionnait énormément parce que c'est un grand chanteur, un grand interprète, ça je tiens à le dire parce que c'est un réel interprète Johnny Et voilà, donc je me suis dit comment je vais faire. C'était la tournée des stades et je me suis dit comment je vais faire, est-ce que je vais être à la hauteur. Et je me souviens que premier jour de répétition, moi je rentrais de Montréal justement où je venais d'enregistrer mon album, donc j'avais encore rien fait. J'avais à peine un petit single qui était sur les ondes un peu partout, mais c'est tout. Et là tout d'un coup, je rentre de Montréal, je répète avec lui en plein décalage horaire, je sais pas trop ce qui m'arrive. Et le lendemain, je dois monter sur scène à ses côtés avec un monde fou dans le public, et je me dis et c'est même pas le public et le monde qui me faisait peur sincèrement, c'était de ne pas le décevoir, en fait je voulais pas le décevoir, je voulais qu'il soit content de ce que j'étais en train de lui donner, c'était important pour moi parce que c'était tellement merveilleux d'être contacté au bout de juste d'un single qui venait de sortir, d'être contacté pour faire la tournée des stades avec cet artiste qui est extraordinaire, que je voulais pas le décevoir.
Et alors quelle a été sa réaction? Il vous a soutenu, Johnny Hallyday?
Ouais, il m'a énormément soutenu. C'est quelqu'un de très très généreux, de très chaleureux. On a beaucoup discuté ensemble et c'est vrai que sur scène il y avait ce truc où on partageait. Il y avait pas Lui, il envoie. Moi, j'envoyais beaucoup aussi parce que, ben, en plus, j'étais jeune, j'avais cette espèce de voix très puissante que je maîtrisais pas forcément, donc j'envoyais tout de suite. Et donc, on s'est éclaté. C'était super tous les soirs. C'était merveilleux. On mangeait ensemble au resto, on parlait. C'est quelqu'un de très accessible, de très abordable.
À l'époque, on vous a surnommé Chimène Badi la Johnny au féminin.
Oui, c'est vrai.
Ça vous a fait plaisir, je suppose.
En tout cas, ça m'a pas déplu parce que c'est un beau compliment, quoi. Et voilà.
Et puis, il y a eu Johnny et il y a eu Sardou. Parce qu'ensuite, oui. Sardou vous a appelé d'abord pour une émission de télévision, Chimène Badi.
Tout à fait. En fait, Michel Sardou, on s'est rencontrés sur les Restos du Cœur. Et moi, je ne savais pas, en fait, qu'il avait fait attention et qu'il m'avait entendu. Enfin, je ne savais pas qu'il avait fait attention à ma voix et qu'il avait entendu ma puissance. Et donc, quand il s'est retrouvé dans le même label que moi, chez AZ à l'époque, Universal Music, donc on avait le même producteur, et il devait y avoir une émission spéciale le concernant. Et voilà, j'ai fait partie des invités, c'est lui qui l'a demandé. Et donc on a fait un duo musulmane tous les deux. Et puis j'ai repris Je viens du Sud, parce que chacun devait reprendre un titre. Et puis Je viens du Sud a fait partie de mon album.
La preuve, écoutons-le.
Je viens du Sud.
Quelle voix, Chimène Badi. Il faut savoir que Je viens du Sud n'a pas eu beaucoup de succès par Sardou parce que c'était la phase B des lacs du Connemara.
Tout à fait.
Et lui-même a un jour dit qu'il ne se souvenait pas avoir enregistré cette chanson.
Ça ne m'étonne pas. Parce que c'est vrai que quand on écoute le lac du Connemara, il y a un truc puissant. Donc, c'est pas étonnant. Mais finalement, cette chanson, elle a pris une autre dimension et d'une autre manière. Mais je crois que Michel la chante aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, oui. Ouais. Mais ça vous correspondait parfaitement parce que vous venez du Sud.
Tout à fait. Oui, et puis il y avait à ce moment-là, il faut que vous sachiez une chose qui est très vraie, c'est une émotion, hein, c'est un sentiment. Le jour où j'ai chanté cette chanson sur cette émission de télé, c'était une période où le Sud me manquait beaucoup. Ma famille me manquait énormément, mes amis. Puis j'étais jeune, je veux dire, j'avais pas vécu grand-chose et tout d'un coup, hop, je travaillais tout le temps et je voyais plus personne. Donc quand on est dans un tourbillon, comme vous le dites, comme ça, où tout va très vite, il y a beaucoup de monde autour de nous, mais en même temps, on est très très seul. Et je crois que ce soir-là, s'il y a eu une émotion particulière sur ma façon d'interpréter la chanson, c'est que dans mon cœur, j'étais en mille morceaux parce que ce que j'étais en train de dire, je viens du Sud et par tous les chemins, j'y reviens. Pour moi, c'était la chose, j'y croyais réellement. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé, je suis retournée dans le Sud.
Et Sardou l'a ressenti, vous a soutenu comme Johnny, lui ? Ou plus discret, parce que...
Michel, quand on lui pose des questions ou si on veut des conseils, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Oui. C'est quelqu'un qui... Y a pas, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est quelqu'un qui n'a pas... Non, pas du tout. Donc, c'est quelqu'un qui m'a toujours dit les choses d'une manière très vraie. Mais en même temps, il avait ce côté... Oui, ce côté un peu protecteur, un grand artiste qui a des années de carrière et qui, à un moment donné, une petite jeune qui arrive. Et bien, il avait ce côté très... et puis il est venu au Zénith, à mon Zénith de Paris, il a chanté avec moi. Je suis allée le voir à l'Olympiade. Il y a eu une vraie petite relation qui s'est installée derrière pendant quelques années. On a aussi partagé un titre qui s'appelait Le Chant des Hommes.
Exactement, oui.
Je ne sais plus sur quel album c'était, mais voilà. Donc oui, il y a eu quand même... on a fait pas mal de choses. Mais j'ai pas eu la même relation avec Johnny qu'avec Michel, ça c'est sûr.
Non, et c'est vrai que Johnny et Sardou étaient très amis à une époque. Ils ne se quittaient pas la nuit, ils faisaient la fête ensemble. Puis ils se sont fâchés depuis, mais moi je suis un soir...
Ah, je savais pas.
Dans une discothèque chez Castel, Johnny et Sardou arrivent. Ils avaient un peu bu. Johnny tenait le choc, Sardou un peu moins. Et ils se font insulter par un type. Johnny dit à Sardou de pas bouger. Sardou y va. Il s'est retrouvé par terre avec un coup de poing. Et Johnny a réglé son compte à ce fan. D'accord. un petit peu particulier. En tout cas, c'est vrai que vous étiez dans ce tourbillon qui s'est passé encore beaucoup de choses depuis. Il y a eu d'autres albums à succès. Et puis, il y a eu encore quelque chose d'important avec une autre date, Chimène Badi, le 21 novembre 2011. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio avec Chimène Badi.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Chimène Badi. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date. 21 novembre 2011, qu'est-ce que c'est à votre avis?
Eh bien, on en parle, pour être, soyons honnêtes, nous en parlions juste avant.
Pendant la pause, oui.
Pendant la pause, j'aurais cru que c'était mon album Laisse-les dire, mais en fait c'est l'album Gospel and Soul.
Oui, où il y a notamment cette chanson. Classique du genre que vous interprétez de façon magistrale, Chimène Badi. Cet album, c'est une surprise pour tout le monde. Sauf pour vous.
Exactement, parce que c'est un album que j'avais en tête depuis très longtemps. Mes influences musicales sont tellement larges. Moi, depuis gamine, j'écoute et j'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours écouté de la musique. Ils adorent ça. Mais mon père était beaucoup plus dans les influences gospel, musique noire américaine. Et maman, c'est la vraie variété française depuis toujours, les textes qui lui parlent, qui... Et c'est vrai que moi, j'ai grandi comme ça. Et y a eu une période où j'avais comme un sentiment de frustration, j'avais le sentiment de ne pas m'exprimer complètement, de ne pas sortir tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais envie de dire, musicalement parlant. Et donc, on parle avec ma maison de disques à un moment donné et ils me demandent ce que j'ai envie de faire. Eux partent sur une idée de reprise qui n'a rien à voir avec mon idée à moi. Et moi, je leur parle tout simplement de cette envie-là, de faire de la musique...
Gospel,
blues, un peu soul, un peu... Voilà, je leur parle un peu de tout ça, et puis je leur parle des titres que j'aimerais aussi reprendre, et puis je leur parle aussi de l'idée de quand même faire des chansons françaises, parce que j'ai justement... Ce côté-là qui fait que j'aime les deux, autant la musique noire américaine que la musique française, et que je n'ai pas envie de faire un choix parce que je me sens bien dans ces deux mondes. Et la maison de disques m'a suivie. Ils ont trouvé que c'était une idée sympathique et ils m'ont suivie. Et finalement, ça a été un beau succès.
Il a fallu choisir les chansons.
Oui, je les ai choisies de mon côté. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'aime pas travailler toute seule. Je pense que c'est important aussi de savoir s'entourer, de savoir échanger avec certaines personnes. Je crois que moi, j'aime bien travailler à plusieurs, pas toute seule. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à mon équipe que chacun, dans leur coin, fasse une liste de titres, et moi aussi, et puis faire une réunion derrière, et puis voir un peu ce que chacun avait choisi. Et il s'avère qu'on s'est retrouvés sur beaucoup de titres, c'est-à-dire que la maison de disques et moi-même, on avait un peu les mêmes titres. Donc ça n'a pas été très difficile pour faire le choix.
Et il y avait une chorale à trouver, Liberty Gospel, qu'est-ce que c'est ?
Liberty Gospel, c'est une chorale de gospel. Et c'était, si je me souviens bien, Laurent Mangana, mon directeur artistique de l'époque, qui avait fait appel à cette chorale pour venir travailler sur l'album Gospel and Soul.
D'ailleurs, je crois que le premier disque que votre père vous a offert était un disque de gospel. C'est ce que j'ai lu quelque part.
C'est vrai. Le premier disque que mon père m'a offert, c'est vrai. Bien, c'est vrai. Oui, j'avais oublié. C'est vrai. C'était un disque de gospel.
Et alors, le gospel, dans les années 30, il s'est développé, mais c'est surtout en 1945 qu'il s'est développé, parce que les femmes avaient du mal jusque-là à se faire connaître dans ce registre. C'est très curieux, on a l'impression que c'est beaucoup plus lointain.
Oui.
Mais juste après la guerre, mais c'était les hommes qui le chantaient, pas les femmes.
Oui.
Et ça s'est développé après la guerre. Donc vous écoutiez Otis Redding, Ray Charles, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, tout ça, c'est votre culture.
Tout à fait. Nina Simone. Oui, mais parce que c'est des voix... Il y a un truc particulier. Moi, j'aime tout ce qui est particulier, comme ça. Alors, j'aime les voix atypiques, j'aime les personnages un peu physiquement un peu à part, qui ne ressemblent pas à tout le monde. Je suis attirée par ces personnages-là.
Et puis, la passion de la chanson. Moi, je me souviens avoir vu Ella Fitzgerald aux 100 ans du Moulin Rouge à Paris. Elle pouvait déjà plus marcher, mais la voix était intacte. Voilà. Elle avait une passion sur scène, c'était la vie.
C'est ça. Exactement.
La chanson, c'est la vie. Il y a quelque chose qui se passe.
C'est ça.
Et puis, il y a aussi une autre passion, et ça, vous la devez à votre père, Chimène Badi, c'est Janis Joplin.
Ah oui, Janis Joplin, que j'ai repris d'ailleurs sur l'album Gospel and Soul avec Mercedes-Benz. Mon père est fou d'elle, et puis je l'aurais peut-être pas connue si papa m'en avait pas parlé, parce que c'était pas du tout de ma génération en plus. Parce qu'à un moment donné, cette femme, il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose de... Il y a une voix d'abord, une signature vocale très particulière, complètement arrachée, puis on sent que cette femme, fallait pas... Elle avait du caractère, quoi, il fallait pas...
Oui, mais sa carrière vraiment n'a duré que 3 ans, parce qu'elle est morte dans la drogue.
Tout à fait, mais c'était quelqu'un d'écorché, c'était quelqu'un de... Mais je trouve que tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle vivait, j'ai le sentiment que ça passait dans sa musique.
Oui, parce qu'en 63, elle tombe un peu dans la drogue, elle essaie de s'arrêter, elle reprend des études à l'université. En 65, tout va bien, et puis il y a quelqu'un qui l'oblige à reprendre du service dans un orchestre un peu psychédélique, et résultat, elle va retomber dans la drogue et disparaître 5 ans plus tard. C'est un destin tragique.
Terrible.
Vous écoutiez les chansons dans la voiture, je crois.
Toujours. J'adore ça, je le fais encore aujourd'hui. Quand j'enregistre, quand je fais des maquettes, quand je prépare un album, j'aime bien écouter dans ma voiture. Certainement parce que je suis toute seule et que en même temps, je peux très bien écouter toute seule à la maison, mais je sais pas, il y a ce truc peut-être en même temps de rouler, de... On n'écoute pas la musique, on la ressent pas pareil. Je trouve qu'on la ressent pas de la même manière.
C'est peut-être aussi un souvenir d'enfance, puisque votre père vous faisait entendre Janis Joplin en voiture aussi.
C'est vrai que mon père écoutait beaucoup de musique en bagnole, et que du coup, j'ai aussi en voiture sur de longs trajets pour aller en vacances, pour aller à la plage. C'est vrai que c'est comme ça aussi que j'ai découvert beaucoup de la musique qu'il écoutait. Aussi.
Et puis, il y avait la passion de votre mère, pour Moustaki en particulier.
Tout à fait, c'est vrai. C'est peut-être vous avez bien travaillé.
C'est pour ça que vous avez enregistré peut-être aussi
Ma Liberté. Tout à fait.
C'est pour votre mère.
Pour ma mère, mais pour moi aussi, parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui me touche particulièrement. Moi, la liberté, c'est un sentiment, c'est quelque chose que j'ai voulu avoir très tôt, depuis toute jeune. J'ai toujours voulu être libre, grandir vite. Pressée de vivre peut-être même et cette liberté j'en ai besoin. Donc du coup, cette chanson, c'est un peu tout ça pour moi.
Et d'ailleurs, Moustaki était épris de liberté. Il partait 6 mois au Brésil, quand il voulait, comme il voulait. Et il n'y avait pas de problème. Ça faisait aussi partie de son talent et de son génie. Alors, il y a eu aussi, ensuite, Danse avec les stars. Ça, ça a été plus dur pour vous, Chimène Badi. C'est un cauchemar, ça.
Ah là là, c'était terrible, ça. Enfin, alors, j'ai regardé, récemment. Là, ouais. C'est un beau spectacle. C'est toujours magnifique. Ouais. Ils font de très belles soirées tous les samedis. Peut-être que c'était trop tôt. J'adore danser. Je suis quelqu'un qui danse beaucoup, qui aime danser. J'adore ça. Mais je pense que c'était peut-être trop tôt. Il s'est passé quelque chose de particulier. Je me pensais prête. Peut-être que je ne l'étais pas. Et puis, il faut savoir que ça reste quand même une émission de télé. Donc, en répétition, tout allait bien. Ça se passait bien. Mais dès que j'entendais mon nom avec celui du danseur et ces caméras braquées dans cette arène, j'ai l'impression que je perdais tout contrôle. Mes jambes ne voulaient plus avancer, mes bras, et j'étais terriblement effrayée, mais terriblement très fébrile. Alors que quand j'ai mon micro, je ne le suis pas du tout.
Voilà.
Et je ne sais pas, peut-être que si c'était aujourd'hui, je le vivrais différemment, j'en sais rien. J'ai juste... Pour moi, ça a été une belle expérience parce que ça m'a surtout appris à accepter l'image que je pouvais renvoyer. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi pour continuer à évoluer dans ma carrière. Et je pense que ça m'a servi aussi plus tard. C'est vrai, hein. Je pense que Danse avec les stars m'a servi.
Mais ça a été une épreuve quand même.
Mais ça reste une épreuve. Oui, mais j'avais ma maman qui était là et qui me soutenait énormément. Ça reste une épreuve, oui, parce que c'était pas quelque chose de naturel pour moi.
Et justement, dans votre image qui a changé, il y a ces fameux 30 kilos dont tout le monde a parlé, que vous avez réussi à perdre. Ça, c'était essentiel pour vous aussi, Chimène Badi.
Est-ce que c'était essentiel pour moi? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'étais pas bien. J'étais pas bien dans mes pompes. Je m'inquiétais pour ma santé. J'avais des problèmes de santé aussi à ce moment-là qui faisaient que j'ai dû avoir une hygiène alimentaire beaucoup plus importante que celle que je pouvais avoir auparavant.
Vous travaillez tout le temps, on peut pas avoir une hygiène alimentaire comme ça.
Mais si on peut, même en travaillant, on peut. Ouais. C'est juste qu'il faut savoir. Et puis voilà, j'avais envie d'être féminine, j'ai eu envie de m'occuper de moi, j'ai eu envie de prendre soin de moi. C'est surtout ça. C'était pas le truc. J'ai pas fait ça parce que j'avais le sentiment que c'était imposé et que tout pour réussir il fallait être comme ça. Je l'ai fait parce qu'à un moment donné c'était important aussi pour moi de me sentir bien dans ma peau, de m'habiller facilement. Tout est difficile quand on a du poids, tout est dur, on n'est pas bien dans sa peau, on n'a pas forcément envie de rencontrer les autres parce qu'on a le sentiment qu'on ne voit que ça, C'est dur de s'habiller, c'est dur de se déplacer, c'est dur de monter des escaliers. Enfin, voilà. Moi, c'est... Et puis, c'était aussi surtout pour ma santé. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est hyper important. C'est-à-dire que si les personnes qui nous entendent, s'il y en a peut-être qui ne sont pas bien dans leur peau et qui ont des kilos en trop et qui le vivent mal, moi, ce que je dis, c'est que le principal, c'est surtout de s'occuper de sa santé. Le reste, ce qu'on renvoie physiquement...
Ça n'a pas d'intérêt.
Ben, je ne pense pas que ça ait de l'importance.
Et la santé aussi, c'était vos cordes vocales. Et là aussi, il y a eu un gros problème qu'heureusement, vous avez réglé à Chimène Valli.
Ouais, là, ça a été une période... Là, ça a été difficile, par contre. Parce que bah pour moi, j'avais tout perdu. Quand
c'était
j'ai perdu
la fatigue,
ma voix.
C'était le résultat de trop d'efforts.
C'était le trop. J'avais des œdèmes sur les cordes vocales. J'avais plus aucune flexibilité de mes cordes vocales. Il n'y avait plus de son qui sortait. J'avais mal. Et puis j'avais mal au cœur aussi. Et puis j'avais peur. Parce qu'on a peur. Parce que quand on écoute les médecins, alors c'est soit on fait une opération, mais. Si on fait une opération, peut-être que la voix que j'ai, je ne la retrouverai pas. Soit je reste patiente et puis j'attends que ça revienne. Donc j'ai attendu que ça revienne, je n'ai pas voulu prendre le risque de me faire opérer. Mais c'est vrai que c'est long et ça a pris un an et demi. Et ça a été difficile pour moi parce que j'étais paumée.
Vous parliez à peine.
Je ne pouvais pas parler pendant les trois premières semaines.
Comment on survit à ça ?
L'entourage, la famille, les amis. J'étais en convalescence chez mes parents à ce moment-là. Et je pense aussi une force de caractère, peut-être aussi. Et puis, je crois que c'est la maladie des chanteuses à voix, de toute façon. Hein. Donc, je ne suis pas la seule à être passée par là. Et j'étais entourée de spécialistes qui connaissaient bien leur métier. Donc, voilà.
Et vous avez appris ensuite à dominer votre voix. Et aujourd'hui, il n'y a plus de problème, rassurez-nous.
Touche du bois, ça va. Non, mais on apprend, oui. Mais vous savez, pourtant, j'avais pris des années de cours de chant. Hein, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si je maîtrisais bien ma technique vocale, il y a des choses qui se passent qui font que tout d'un coup, peut-être qu'on va monter sur scène en faisant moins attention et je me suis fait mal. Et voilà.
Et votre retour au studio, sur scène, ensuite, avec vos cordes vocales qui refonctionnaient, ça a dû être un grand moment d'émotion, Chimène Valli.
Je me souviens que c'était sur une télé. C'était sur une télé, je revenais sur une télé où je devais chanter le blues du businessman. Donc, sacrée chanson quand même. C'est une grosse émission, je crois qu'il y avait, Charles Aznavour, oui, il y avait plein d'artistes. C'était extraordinaire parce que tout d'un coup, j'avais le sentiment que je pouvais recommuniquer. Pour moi, la chanson, c'est mon mode d'expression. Donc, tout d'un coup, je pouvais parler de nouveau et surtout chanter. Donc, c'était fort.
Ce qui est fort aussi, c'est ce passé que vous avez raconté. Ce qui est aussi très fort, c'est l'avenir. On va en reparler dans quelques instants avec une date importante pour vous, le point de départ d'autre chose, le 3 février 2018. À tout de suite sur Sud Radio avec Chimène Valli.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Chimène Valli. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent. Et puis on parle du futur avec une date, le 3 février 2018, c'est le point de départ d'une tournée pour Méditerranéenne, un album étonnant. Et ce départ se fait dans un lieu symbolique, quand on connaît le sujet, c'est le Bataclan.
C'est le Bataclan, tout à fait, oui.
Parce que cet album, au départ, c'est un album que Julie Zenati a conçu.
Tout à fait.
Et cet album a une histoire, vous êtes arrivé dans cette histoire, mais c'était vraiment un contexte très particulier.
C'est-à-dire que Julie réfléchit ce projet, je pense, depuis de nombreuses années, si je ne me trompe pas. Et c'est quelque chose qui était particulièrement important pour elle. Je pense qu'elle se posait aussi des tas de questions et qu'au travers de ce projet, elle avait peut-être aussi des réponses.
C'est-à-dire que cet album, ce sont des chants d'amour qui évoquent vos origines communes.
Tout à fait, au travers de la Méditerranée, au travers d'un voyage de plusieurs langues, de plusieurs personnalités, puisque nous sommes plein d'artistes différents sur cet album méditerranéenne. Mais avec tout ce côté méditerranéen qui revient et qui est très fort chez chacun de nous. Et c'est vrai que quand Julie m'a parlé de ce projet... Eh bien, je m'y suis retrouvée et je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est une part de moi qui est très importante et que j'avais peut-être un peu mis de côté. Et je trouvais que c'était intéressant de repartir, d'aller chercher un peu plus loin dans mes origines, dans tout ce que j'ai pu être, le parcours de mes parents, de mes grands-parents. Voilà, c'est intéressant.
Oui, parce qu'il y a la filiation, il y a les terres d'origine, il y a l'enfance. Et en plus, ce projet permet à des gens qui ne connaissent pas forcément toutes ces chansons, qui ne sont pas mis de les découvrir.
Tout à fait.
Parce qu'il y a des chansons récentes et anciennes.
C'est ça. Et puis, on passe par plein plein d'endroits. Vous pouvez me passer l'album ? On passe par plein d'endroits et c'est vrai que c'est très, très intéressant. On passe par l'Algérie, on passe par la Tunisie, on passe par la Grèce, on passe par l'Espagne.
Il y a tous ces endroits, hein, et notamment vous interprétez une chanson. Il y a deux chansons que vous interprétez, et il y en a une qui va rappeler plein de souvenirs à celles et ceux qui nous écoutent. Le Café des Délices. Pourquoi cette chanson, Chimène Badi avec Julie Zenati?
Alors, elle faisait partie d'abord des titres qui avaient été retenus pour ce projet. Elle a ce côté très festif que tout le monde connaît, évidemment. Mais au travers de cet album, on parle aussi beaucoup de départ, d'arrivée, de migrance, un petit peu. Voilà,
oui, des sujets dans l'air du temps.
Voilà, tout à fait. De gens qui partent. De certains endroits, un peu déracinés pour aller dans d'autres qui ne savent pas trop. Et c'est vrai que le Café des Délices, c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça qu'elle raconte, cette chanson. Et c'est le départ de la Tunisie, si je ne me trompe pas. Donc,
oui.
Voilà, je pense que c'était logique qu'elle fasse partie de cet album.
Vous le connaissez, vous êtes allé dans ce Café des Délices?
Non, pas du tout. On m'en a parlé beaucoup.
En fait, l'année dernière, il y a eu un contrôle sanitaire.
Ça
aurait pu vous arriver en tant qu'inspecteur. Ouais. Il a été fermé pendant 3 mois.
D'accord.
Il a réouvert ses portes, mais les prix ont encore augmenté. C'est-à-dire que la vue, qui est magnifique, est vraiment hors de prix maintenant.
D'accord, ok.
C'est assez étonnant.
Ce serait l'occasion d'y aller un jour quand même.
Je pense, oui. Et ces chansons, donc, il y a tout un tas d'interprètes qui ont été choisis. Comment se sont réparties les chansons? Est-ce que c'est Julie qui a choisi ou est-ce que vous êtes intervenue, Chimène Badi?
Ça s'est fait, vous savez, ça s'est fait très naturellement. Julie et moi, on se connaît depuis mes débuts, donc ça fait 15 ans qu'on est amis, qu'on se connaît, qu'on se dit les choses, voilà. Et c'est vrai que quand elle m'a envoyé là cette liste, donc avec ses choix de titres, bah, naturellement, moi, je lui dis j'ai envie de chanter là-dessus, j'ai envie de chanter là, ça m'intéresse parce que je pense que je peux apporter quelque chose d'intéressant. Et je pense que tous les artistes de l'album ont fait la même chose. Et Julie nous a laissé vraiment nous exprimer et faire nos choix pour pouvoir nous exprimer et donner une partie de notre Méditerranée.
Et justement, il y a une autre chanson que vous interprétez avec Julie Zenati, c'est Amal. Amal, c'est un hommage à la terre du Liban.
C'est ça, tout à fait. Une des chansons qui a été la plus dure à interpréter, je dirais.
Pourquoi ?
Elle a une puissance particulière, quelque chose qui fait que pendant que vous la chantez, vous avez le cœur un peu ouvert en deux, parce qu'elle est forte, parce qu'elle est puissante, et parce qu'en même temps, elle est fragile. Je sais pas comment.
Oui, mais en plus c'est un message d'espoir parce que les Libanais qui ont eu subi tant de guerres, eh bien malgré la guerre, ils gardent le sourire en permanence.
Toujours.
C'est étonnant.
C'est vrai. Pour y avoir été plusieurs fois, ils ont même envie de vivre beaucoup. C'est surtout ça, très envie de vivre, de profiter, de s'amuser, de profiter de la vie.
C'est
important.
Et cette chanson Amal, qui est un mot qui signifie espoir, c'est une chanson d'Emel Matlouti.
Matlouti,
oui.
Matlouti.
C'est une égérie de la révolution tunisienne qui a même chanté en 2015 lors de la remise du prix Nobel.
C'est ça,
à
tout
Oslo.
À fait. Oui, tout à fait.
Vous l'avez rencontrée ou non?
Non, on ne l'a pas rencontrée. Je sais que Julie a essayé, peut-être, si je ne me trompe pas. Mais voilà.
Bah, peut-être qu'un jour, vous allez la croiser.
On l'espère, en tout cas. Ce serait beau.
Il y a aussi des chansons en arabe. Et curieusement, Julie Zenati ne parle pas arabe, mais les chansons l'ont séduite.
Oui. Il y a par exemple... bon, alors, c'est pas arabe, mais c'est kabyle. Et c'est la chanson que j'interprète dans l'album qui s'appelle Osundu, une chanson d'Idir. Oui, mais parce que dans ses origines, et puis elle a pensé aux origines des autres aussi, mais dans ses origines, il y a un peu de kabylie hein, aussi.
Et ces rythmes sonnaient à vos oreilles, Chimène Badi, totalement, ou il y avait des découvertes?
Alors, pour y dire, pas du tout. J'ai grandi avec cet artiste. Mes grands-parents, mes parents, mes tantes, enfin, tous ceux qui m'entourent aiment y dire et le connaissent. Donc, j'étais pas du tout paumée. Je connaissais, comme je connaissais Zina, parce que Zina, par exemple, c'est une chanson que je connaissais, qui est la version originale au départ, d'un groupe qui s'appelle Babylone. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Sauf que le texte en arabe parlait d'une histoire d'amour entre deux personnes, ce qui fait que c'était pas ce qu'on voulait raconter au travers de l'album. Zina, c'est... En fait, nous sommes tous, dans cet album, issus d'une double culture. Et Zina, c'est ce qu'elle raconte un petit peu, cette chanson. C'est même pas un petit peu, c'est ce qu'elle raconte. Et voilà, donc je connaissais cette chanson aussi, je connaissais le Café des Délices, mais je ne connaissais pas la chanson Amal.
Et d'ailleurs, ces chansons ont été traduites à la perfection, c'était très important la traduction.
Il y a eu un très gros travail. Ouais. C'est pas de la traduction, c'est des adaptations.
C'est encore pire, voilà. C'est encore plus difficile. Il y a Elisa Tovati, il y a Slimane, il y a Enrico Macias.
Oui, alors je vous raconte l'anecdote, je me permets de la raconter moi, même si c'est Julie qui a eu Enrico. Elle a tout simplement appelé pour lui dire qu'elle allait reprendre la chanson Adieu mon pays, voilà, pour le prévenir, parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Et en fait, il a trouvé ça génial, il a dit ok, super, et je chante quand?
Voilà,
donc c'est ça, pour
c'est
ça.
Enrico.
Oui, et puis du coup, il a eu ce côté un peu parrain de l'album, et voilà. Et c'est vrai que Slimane aussi et Claudio sont deux artistes, on sent qu'ils ont évolué avec cette relation voilà, de leur mère, ce côté très matriarcal qui était là et qui revenait. Et je trouve qu'ils savent mettre en valeur la femme. Donc c'était intéressant qu'ils soient là aussi.
Oui, et Macias, il faut savoir qu'Adieu mon pays, c'est la chanson qui a été la chanson de la découverte. C'est-à-dire qu'il passait dans les cabarets, il avait écrit cette chanson, personne n'en voulait. Et un jour, il reçoit un coup de fil d'Igor Barrère, qui était le réalisateur de 5 colonnes à la une, qui en avait entendu parler.
Ouais.
Et il dit, je voudrais vous tourner. Un peu surpris, il croit une blague. Il fait un gala à la Mutualité, c'est tourné. Et à 20h30, un vendredi, dans 5 colonnes à la une, il chante cette chanson et ça a été le point de départ d'un million de 45 tours vendus et de sa carrière.
D'accord. Et justement, c'est une très 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 belle chanson.
C'est une magnifique chanson. Ouais. La femme, justement, la femme est importante dans cet album.
Ah oui, mais c'est quand même au départ un album de femmes. Pas féministe, hein, un album de femmes.
Oui, très différent.
Voilà, un album de femmes.
De liberté de la femme et de femme épanouie.
C'est ça, et qui s'assume et qui assume ce côté méditerranéen dans tout ce que ça peut être. Dans les gestes, dans le côté excessif, dans des tempéraments bien trempés, dans ce côté, quand on est heureux, on l'est à fond, quand on est triste, on l'est à fond. C'est tout ça.
Et puis il y a la Maritza aussi.
Et puis la dignité aussi, j'avais envie de dire. Ça,
oui, vous
important.
Avez raison, oui, c'est important. Mais surtout en ce moment, dans tout ce qu'on raconte autour de la femme, c'est essentiel.
Voilà.
La Maritza, justement, aussi, c'était important. Ça aussi, c'est venu presque spontanément dans l'idée de Julie Zenati.
Je vais avoir du mal à répondre à cette question, mais en même temps, je pense...
C'est la Bulgarie.
C'est la Bulgarie, on est d'accord.
En fait, cette chanson est née, c'est un fleuve turc. Et lorsqu'il manquait une chanson dans un album de Sylvie Vartan, on demande à Delanoë d'écrire des paroles, il ouvre le dictionnaire, il va Bulgarie et il voit Maritza. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée que cette chanson est devenue culte.
D'accord. Mais... Et c'est vrai que ça faisait partie des choix de Julie et c'est une chanson qu'elle aime beaucoup en plus. Donc voilà, c'est, elle a fait ce choix-là... Voilà.
Alors maintenant, il y a l'album qui a été un succès depuis quelques mois, on en a beaucoup parlé, et vous allez partir en tournée, mais avec Julie, c'est-à-dire que vous allez vous partager le travail.
C'est-à-dire que dans l'idée, c'était important pour nous, même si... Enfin, on avait vraiment envie d'emmener ce projet méditerranéen sur scène, parce que pour nous, c'est la concrétisation. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le public à ce moment-là. Il y a un vrai partage. C'est un album de partage, donc pour le coup, de se retrouver face au public et de pouvoir le vivre et de pouvoir leur raconter ce voyage, cette Méditerranée et tout ce qu'on ressent chacune et chacun sur cet album. C'était important pour nous, c'était très important pour nous. Et c'est vrai que quand on a eu l'annonce du Bataclan, on était très très heureuses parce que c'était un choix qu'on avait fait toutes les deux. Et voilà, c'était symbolique pour nous aussi. Et on est très heureuses parce que ça montre aussi qu'on n'est pas dans un concept et qu'on est vraiment dans quelque chose où on a envie d'aller donner au public, transmettre et partager. Et ça, c'est chouette.
Et est-ce que vous serez toutes les deux sur scène, Chipène Badi, ou est-ce que les autres interprètes de cet album viendront de temps en temps?
Alors, pour le Bataclan, on va avoir, bien sûr, des guests qui sont dans l'album. Bien évidemment, il y aura Slimane, je crois. Je crois qu'il y a Elisa Tovati, Nawel Benkraïm, et Samira Bramia.
Alors, il y a plusieurs dates, là, j'en ai quelques-unes. 10 février à Lille, 11 février, Bapaume, le 26 mai à Golbey, près d'Épinal, le 5 octobre à
Mondorf-les-Bains,
12 octobre, et vous terminerez le 17 novembre à Villeneuve-sur-Lot.
à la maison.
Voilà.
Et vous voulez que je vous raconte la petite anecdote?
Oui, oui.
Je n'ai jamais chanté là-bas.
C'est pas vrai.
Oui. Donc, ce qui est très, très sympathique, c'est que je vais le faire avec une amie à moi qui s'appelle Julie Zanatti. Et bah, je sais pas, moi, je trouve ça merveilleux qu'on puisse aller chanter ensemble dans ma ville, là où j'ai grandi. Il y a un truc très sympa qui me touche particulièrement. Ouais.
Et comment vous allez vous répartir les autres?
Mais on ne terminera pas à Villeneuve.
Non, non, c'est le provisoire, c'est les dates provisoires. Non, je suis sûr que vous irez beaucoup plus loin. Donc, comment vous êtes réparti le travail toutes les deux?
On commence là, on est en train de tout mettre en place. D'ailleurs, quand je vous quitte, on a une réunion derrière. On va mettre les choses en place ensemble. Julie est pleine d'idées, ça bouillonne dans sa tête tout le temps. De toute façon, elle est comme ça. Et elle a tout plein d'idées. Alors, on va échanger ensemble. Et puis, on va voir. Il faut savoir aussi qu'on chantera aussi des titres de notre propre répertoire aussi, Julie et moi-même. Mais voilà, on est en train de mettre tout ça en place. Et ce sera un spectacle merveilleux parce qu'il y aura beaucoup d'âme et il y aura beaucoup de vérité, de sincérité dans notre travail.
Et ça, c'est important pour vous parce que j'ai l'impression qu'au début, ben, c'était un peu... Vous étiez pris dans un tourbillon, comme on l'a dit tout à l'heure, Chimène Badi, mais maintenant, l'âme compte plus que vous, plus que tout pour vous.
Plus que tout pour moi, exactement. C'est-à-dire que je ne veux pas faire les choses parce que tout d'un coup, je peux être numéro un tout d'un coup si je fais ça. Par contre, je vais choisir les choses qui me parlent, dans lesquelles je peux apporter quelque chose d'intéressant et prendre du plaisir et vivre ce métier comme j'ai toujours voulu le faire.
Et ce spectacle, particulièrement méditerranéenne, est un spectacle de transmission.
Oui, parce que on a des tas de choses à transmettre au travers de ce qu'on raconte et de l'histoire qu'on veut raconter. C'est un voyage, c'est un voyage. Et le Bataclan, ce spectacle au Bataclan sera un voyage, voilà.
Eh ben, nous y serons le 3 février au Bataclan, symboliquement. En tout cas, merci de nous avoir permis de participer à votre voyage en le racontant.
Non, merci à vous, c'était un vrai beau moment.
Eh ben, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'album Méditerranéenne, je le conseille parce que c'est un très bel album.
C'est gentil.
Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye, comme tous les jours à 14h. Et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci et bon voyage, Chimène.
Merci beaucoup.
Bonne journée, à demain.